VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 12 février 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Cameroun, enlèvement d'un sous-préfet dans le nord-ouest anglophone.
Nouvelle manifestation hier au Niger contre le budget 2018.
Le Premier ministre du Mali promet la sécurité dans le centre et la présidentielle en juillet.
Prise de fonction de la nouvelle chef de la MONUSCO, l'Algérienne Leïla Zeroughi.
En Russie, poursuite de l'enquête sur la cause du crash près de Moscou d'un avion de ligne, crash qui a coûté la vie à ses 71 occupants.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, enlèvement à 412 kilmètres de Yaoundé, la capitale, d'un sous-préfet dans la partie anglophone du pays. Marcel Namata Dikeng était en poste à Batibo, dans la région du Nord-Ouest. Les auteurs de son enlèvement appartiendraient à la branche armée des sécessionnistes anglophones. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Juntap.
Le sous-préfet de Babito a été enlevé par trois individus armés à la place des fêtes de cette localité. L'enlèvement est survenu alors que Marcel Namata Dikeng était venu s'enquérir des préparatifs du défilé marquant la fête nationale de la jeunesse. Un défilé qu'il n'a pu présider puisqu'il s'est retrouvé nez à nez avec deux individus armés. Voyant leur attitude menaçante, le sous-préfet de Babito va tenter une fuite à bord de son véhicule de service. Malheureusement, même son chauffeur avait déjà été neutralisé par une troisième personne appartenant au groupe du kidnapping. Plus tard, dans la journée du dimanche, le véhicule du sous-préfet enlevé sera retrouvé calciné, a rapporté un député de la région via sa page Facebook sur un poste de propagande où l'on apercevait une voiture calcinée. Le chef de la branche armée des sécessionnistes anglophones, Ayabacho, promettait, citation, l'enfer au sous-préfet enlevé. Aucune réaction du gouvernement camerounais jusqu'ici. Le 10 février dernier, les autorités administratives du Nord-Ouest avaient décrété un couvre-feu en prévision aux attaques ciblées dans cette région lors de la célébration de la fête nationale de la jeunesse. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Nouvelle manifestation hier au Niger contre le budget 2018 adopté par le gouvernement. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour la troisième fois en l'espace d'un mois à Niamey et dans les grands centres urbains du pays, à l'appel du cadre de concertation et d'action de la société civile indépendante du Niger. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Elles sont encore sorties plus nombreuses que les deux précédentes fois. Au moins 20 000 personnes selon un des organisateurs, pas d'estimation toutefois au niveau des autorités. Ce sont justement ces autorités que les manifestants veulent contraindre à revoir certaines dispositions de la loi des finances 2018 adoptée en novembre 2017. Les organisations de la société civile indépendante ont énuméré une centaine de mesures fiscales contenues dans le budget 2018 qu'elles jugent impopulaires car difficilement supportables par les populations déjà meurtri. Parmi ces mesures, on peut retenir l'élargissement de la taxe sur la valeur ajoutée sur plusieurs produits de première nécessité et sur le transport, jusqu'ici pas concernés, ou encore des exonérations fiscales accordées à des multinationales telles que Areva et des compagnies de téléphonie mobile. Ces manifestations, initiées par le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile indépendante du Niger et qui vont se tenir chaque deux semaines dans toutes les grandes villes du pays, n'ont pas encore fait réagir le gouvernement.
Rendez-vous est pris. Pour le dimanche 25 février 2018, tous unis nous vaincrons la lutte continue.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En visite à Mopti, le Premier ministre du Mali, Soumaïlou Boubey Maïga, a promis que l'État sécurisera la région par tous les moyens nécessaires, tout en assurant que la présidentielle se tiendra fin juillet. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Pour sa toute première visite à l'intérieur du pays, le chef du gouvernement a voulu marquer les esprits. Pour renforcer l'opération de sécurisation de la région, le Premier ministre a annoncé le déblocage en urgence de plus d'un demi-milliard de francs CFA pour soutenir les actions de l'armée. Du nouveau matériel devrait aussi être mis à la disposition de l'armée dès la semaine prochaine. Des mesures visant à dissiper le malaise perceptible au sein de l'armée malienne après la désertion de 36 gendarmes en janvier dernier. Le gouvernement a adopté en 2017 un plan de sécurisation intégré des régions du centre qui prévoit à terme la mobilisation de plus de 4000 militaires pour assurer la sécurité dans la région de Mopti. Sur le plan politique, des sous-préfets devraient être nommés la semaine prochaine pour pallier à l'absence de l'administration malienne dans le centre. Monsieur Maïga a par ailleurs assuré que le premier tour de l'élection présidentielle se tiendrait bien le dimanche 29 juillet.
Toujours au Mali, le maire de Tarkit, donné pour mort par certains médias, a été libéré par ses ravisseurs. Il est rentré hier dans son village après plusieurs jours de captivité. Le point avec Boubacar Touré, notre correspondant à Gao.
Son nom, c'est Baba Ould Cheikh, maire de la commune urbaine de Tarkit dans le cercle de Bourem. Selon les informations diffusées sur certains médias, Baba Ould Cheikh, enlevé entre le 21 et 23 janvier 2018 à son domicile par 6 hommes armés non identifiés, avait été retrouvé et égorgé par ses ravisseurs. Dimanche, le secrétaire général de la mairie de Tarkit a déclaré sur une radio locale que Baba Ould Cheikh est bien vivant et qu'il vient d'arriver à Al-Moustra. Zulkafili Meigam, secrétaire général de la mairie de Tarkit.
Je suis actuellement à Gao. Il y a seulement quelques minutes, quelqu'un m'a appelé de Tarkit pour m'informer de l'arrivée du maire Baba Ould Cheikh à Al-Moussrat. Aussitôt, j'ai appelé un de ses frères qui m'a dit que le maire est bien là et qu'il se porte bien. J'ai encore appelé un de mes amis à Al-Moussrat. Ce dernier m'a confirmé l'arrivée du maire aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils sont en fait actuellement. Écoutez, je ne vois pas pourquoi ils m'auraient tous menti, puisque je leur fais confiance. Et je suis très content d'ailleurs du retour du maire Baba Ould Cheikh donné pour moi par certains médias.
Kaou, Boubacar Touré, VOA Afrique.
La nouvelle chef de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, l'Algérienne Leïla Zeroughi, a pris officiellement ses fonctions hier dans un climat de tension larvée avec les autorités. En plus de la mission de soutenir le processus politique et d'assurer la protection des civils, Madame Zeroughi devra offrir ses bons offices en vue de l'application intégrale de l'accord politique du 31 décembre 2016.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les enquêteurs russes cherchent à déterminer la cause du crash près de Moscou d'un avion de ligne, crash qui a coûté la vie à ses 71 occupants. Ils examinent toutes les hypothèses, conditions climatiques, facteurs humains ou problèmes techniques, mais sans mentionner la piste terroriste. L'avion de ligne de la compagnie Saratov Airlines s'est écrasé près de Moscou dimanche, peu après avoir décollé de l'aéroport de Domodedovo.
Le président palestinien Mahmoud Abbas est attendu aujourd'hui en Russie, deux semaines après le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Monsieur Abbas cherche à s'assurer auprès de Vladimir Poutine du soutien de Moscou face à Washington, qui a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Cette visite intervient deux jours après la série de raids aériens israéliens contre une douzaine de cibles syriennes et iraniennes, en représailles à, selon l'État hébreu, l'incursion d'un drone iranien dans son espace aérien. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La Mauritanie et le Sénégal ont conclu un accord de coopération pour l'exploitation d'un important champ gazier offshore, Grand Tortue, à Meïm, GTA, à cheval sur la frontière maritime entre les deux pays. Cet accord inclut le développement de l'exploitation et le partage des ressources ainsi que les conditions de règlement des litiges. Ce gisement de gaz naturel est le plus important en Afrique de l'Ouest avec des réserves estimées à 450 milliards de mètres cubes. Dakar et Nouakchott ont en revanche renvoyé à fin mars le règlement de leurs différends sur la pêche. Le Gabon s'engage à rembourser trois quarts de sa dette intérieure. Il porte sur 310 milliards de francs CFA du montant total de la dette initiale évaluée à 400 milliards de francs CFA. 177 entreprises sont concernées et les PME seront particulièrement privilégiées. En contrepartie, ces entreprises se sont engagées à réinvestir une partie des montants remboursés pour participer à l'effort de relance de l'économie nationale. Fin 2017, la dette intérieure représentait plus de 4% du produit intérieur brut. La fragilité climatique constitue un obstacle majeur au développement en Afrique. L'Abad parle d'une situation récurrente.
On est pratiquement dans un cycle de 10 ans. Tous les 10 ans, on sait qu'on aura la sécheresse qui se traduit par la famine. Mais si les capacités des pays étaient prouvées, on pourrait avoir des sécheresses sans famine. Donc il y a une capacité de prévision, mais aussi une capacité d'action qui manque un peu dans les pays.
Sibri Tapsoba, directeur du bureau de la coordination des États en transition auprès de l'Abad.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football à la une avec un week-end consacré au retour des Coupes d'Afrique des clubs.
Et on commence par la Ligue des Champions avec la grosse performance de l'Entente de Sétif, vainqueur de l'Olympique Real de Bangui 6-0. Bonne prestation également des Nigériens de Plateau United, victorieux 3-0 des Camerounais d'Edin Sport. 3-0 aussi pour les Angolais de Primeiro do Agosto face aux Zimbabwéens de Platinum. L'SV Globe, non sans peine, a eu raison des Malawites de Wanderers 4-0. Autre victoire signalée, celle des Congolais d'Otoho 2-0 devant MC Alger. Et puis la SEC d'Abidjan ramène le nul de son déplacement de Cotonou face au Buff du Bogou. Même score entre le Real de Bamako et MFM FC du Nigeria.
Élisée, ce préliminaire n'a pas manqué de surprise.
Effectivement Idrissa, et notons la lourde défaite 3-0 d'El Merriek du Soudan sur le terrain des Botswanais de Township Rollers. C'est mal parti pour les Nigériens d'Asfan, battus chez eux 3-1 par les Guinéens d'Oroya. Pour le reste, un partout entre les Mauritaniens de Congode et l'Espérance de Tunis. Pas de vainqueur également entre Stade Malien et Williamsville d'Abidjan, un partout. Belle performance des Malgaches de Snaps, vainqueur 2-1 de Kampala FC. 2-1 aussi des Léopards de Dolizy aux dépens de l'AS Togo Port. Victoire domicile des Burkinabés de Kadiogo face aux Gabonais de Mounana, score 1-0. Des Sud-Africains de Wits face aux Mauriciens de Pamplemousse, 2-0. Même score en faveur des Sénégalais de Génération Foot aux dépens des Égyptiens de Missi El Makassa. L'entraîneur de Génération Foot, Olivier Perrin, s'est réjoui de la victoire de son équipe, mais estime que la qualification est loin d'être acquise. On l'écoute au micro d'Amédine Si.
C'était pas évident dans la mi-temps quand on a vu la première mi-temps d'être capable de remporter ce match 2-0. C'est une belle réussite parce que l'adversaire connaissait à fin de compte très bien nos points forts. Ils ont réussi à les contrecarrer en première mi-temps. On a corrigé un peu à la mi-temps tactiquement et le match il se gagne pas qu'en jouant bien des fois. Il fallait peut-être des fois allonger un tout petit peu plus parce qu'on savait qu'ils étaient un peu lents derrière. Et sur la deuxième mi-temps, j'ai trouvé que physiquement on était de plus en plus fort et que leur bloc s'est distendu beaucoup et on a eu beaucoup plus de solutions de jeu à l'intérieur et beaucoup plus de solutions de jeu dans le dos de la défense. Il faudra marquer au match retour. Si on ne marque pas au match retour, on sera éliminé.
Tour préliminaire allait également en Coupe de la CAF et l'Africa Sport d'Abidjan a été accroché à domicile.
1-1 par les Mauritaniens de Nouadhibou. Les Aiglons ont besoin d'une victoire au match retour, tout comme les Nigériens d'Akwa United battus à domicile 2-1 par les Gambiens de Hawks. Service minimum 1-0 pour les Ghanéens d'Asanti Kotoko face à Kara de Brazzaville. Et puis victoire 2-1 des Marocains de Berkane aux dépens des Sénégalais de Mbou Petite Côte. Enfin, large victoire 4-0 des Tanzanais de Simba face aux gendarmes de Djibouti.
Ce premier tour aller de cette coupe CAF a déjà démarré le vendredi dernier à Bamako.
Oui, avec le nul 1-1 concédé à domicile par 11 créateurs devant les Algériens de CR Belouizdad. Grosse performance des Congolais de Maniema Union, vainqueur 1-0 sur le terrain de Manga Sport. 1-0 aussi en faveur d'énergie de la SB2E à Cotonou devant le Yafia de Conakry. Nul blanc par contre entre la Standard et la Macha du Congo. Petro Atletico de Luanda a réussi un carton de 5-0 contre Masters Security. Et puis Al-Masr FC réalise le 4-0 face à Cruz Buffaloes.
Les Jeux Olympiques d'hiver à présent, la compétition se déroule actuellement à Pyeongchang en Corée du Sud.
8 pays vont représenter l'Afrique. L'Afrique du Sud, l'Érythrée, le Ghana, le Kenya, Madagascar, le Maroc, le Nigeria et le Togo qui ont envoyé au moins un athlète à ces Jeux Olympiques d'hiver. Et puis, avec vous Idrissa, les résultats de la nuit en NBA, le championnat professionnel nord-américain de basketball.
Toronto et Charlotte 123-103, Atlanta et Détroit 118-115, Cleveland et Boston 121-99, Indiana et New York 121-113, Houston et Dallas 104-97, Minnesota et Sacramento 111-106.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Inquiétude à Bukavu face à l'insécurité grandissante dans la capitale du Sud Kivu. Suite aux attaques de bandits armés et d'extorsions et aux extorsions de biens et d'argent que subit presque quotidiennement la population, c'est la psychose dans la ville, particulièrement dans les milliers de changeurs de monnaie victimes de braquages en plein jour. Reportage de notre correspondant sur place, Ernest Muhero.
La dernière attaque en date remonte à la nuit du 8 février dans les quartiers Ponzi en commune d'Ibanda. Des hommes armés non identifiés ont attaqué 24 maisons et dépouillé certaines familles, transformant ces quartiers en un champ de tirs nourris à 3 heures du matin au moment de l'intervention de la police. La même nuit, une autre attaque au quartier Nkafu en commune, cette fois de Kadutu, a entraîné la mort d'un enseignant. Selon l'organisation locale Sagesek Force Vive, pour le seul mois de janvier 2018, il y a eu 20 personnes tuées et 36 maisons attaquées dans les trois communes de Bukavu. Tant Ilunga, du Parti congolais pour le progrès, garde un souvenir amer de l'attaque survenue dans sa famille le 3 février vers 1h du matin au quartier Nyakaliba.
Ils ont escaladé le mur de ma clôture et pendant qu'ils forçaient les portes comme ça, j'ai tenté d'appeler presque tous les services en charge de la sécurité sans succès. Pendant ces 30 minutes, j'ai résisté. J'ai un bébé de 2 semaines. Ils ont jeté le bébé. Un de mes enfants était tombé évanoui. Tout ça donc c'est des traumatismes. La sécurité doit être quand même la priorité de toutes les priorités.
De temps à autre, des corps sans vie sont découverts ça et là dans la ville. D'autres victimes de cette insécurité sont surtout les cambistes. Le 25 janvier à 16h30, une attaque spectaculaire à la grenade en plein centre-ville a fait 2 morts et 17 blessés en face de la société Kotecha. Parmi les blessés figurent le président des cambistes et de cet axe, père de 9 enfants qui a perdu ses 2 jambes et 3 doigts. Le coordonnateur provincial de l'association des cambistes de Bukavu, Justin Moussikano, interpelle.
Nous demandons aux autorités de nous garantir la sécurité. Depuis 2018, il y a 4 attaques. Et dans ces 4 attaques, il y a 3 morts, il y a 17 blessés et beaucoup de pertes de biens matériels, surtout de l'argent. Ce sont des gens qui viennent avec des armes et ils tirent des balles réelles sur les gens.
Christian Wanduma, membre du cabinet politique du gouverneur du Sud Kivu et coordonnateur de Bukavu Force Vive, une organisation spécialisée dans les questions sécuritaires.
Ceux qui ont braqué au niveau de Kotecha, il y a 4 qui ont été arrêtés. Ceux qui ont braqué Kibongé, il y a déjà une dame et un type récupérés. Ça, ce sont les signes qui prouvent que les services s'y mettent pour remettre de l'ordre, mais pour que les services puissent réussir ce soutien, cette collaboration de la population en est d'une grande contribution, parce que la sécurité, c'est une affaire de nous tous. Et le travail est en train d'être fait, et je vous dis, bientôt, on mettra fin à cette insécurité.
Bien que la police ait déjà interpellé 10 de suspects en lien avec l'insécurité dans la ville, la psychose monte de plus en plus. Personne ne se sent vraiment à l'abri. Les regards sont donc tournés vers la police et le nouveau gouverneur du Sud Kivu, Claude Nyamugabo, qui avait promis dans son discours programme le maintien de la sécurité parmi les axes prioritaires de son action gouvernementale. De Bukavu, Ernest Muero, VOA Afrique.
À Goma, dans l'autre Kivu, le Nord, 36 000 festivaliers chantent et dansent pour la paix pendant 3 jours au festival Amani, paix en Swahili. Dans cette ambiance multiculturelle avec plusieurs artistes nationaux et internationaux, le festival est aussi une occasion pour les hommes et femmes d'affaires ou de petits commerçants de doubler ou tripler leur chiffre d'affaires à travers de petites activités commerciales installées autour de la scène, pour cette 5e édition de ce Festival de la Paix. De Goma, capitale du Nord Kivu, reportage de Charlie Kasereka.
Placé sous le signe de la paix et l'entrepreneuriat des jeunes, le festival Amani, paix en Swahili, est maintenant l'une des grandes rencontres culturelles de la sous-région des Grands Lacs. Presque toute la ville de Goma est mobilisée. Pour ceux et celles qui veulent faire des petits commerces dans l'enceinte même du festival, il faut pour cela réserver un stand de plusieurs mois à l'avance. Cette commerçante a dépensé ses $50 pour être présente. Elle espère que le festival va lui rapporter 3 fois sa mise en vendant de la nourriture, la bière et d'autres friandises, mais aussi elle grille des maïs au piment.
J'ai mis $50 et chaque jour, j'ai un bénéfice de 25. Tu sais que depuis longtemps, il n'y a pas d'emploi au Congo. Dans des occasions comme celle-ci, on s'improvise commerçant avec le peu d'argent qu'on a à la maison.
Mais c'est quand tout l'habit là, la cinquantaine révolue veut que les organisateurs ajoutent même une semaine de plus pour multiplier son chiffre d'affaires.
J'ai fait la crème avec mes enfants là-bas et mes travailleurs venus ici au festival. En tout cas, ça marche, c'est bon. J'ai fait 150 des amis ici. Mais en dehors de là, j'ai fait les 50, 60, 70.
Parler de la paix sans entreprendre, c'est rester incomplet, pense Vianney Bissimwa, l'un des organisateurs du festival, soulignant que la meilleure façon de pérenniser la paix, c'est de travailler dur et accompagner l'encadrement économique des jeunes dans l'entrepreneuriat.
Non, c'est juste pour dire que nous croyons que la paix, c'est aussi culturel, mais c'est aussi de l'entrepreneuriat. Et nous pensons qu'en donnant un espace et des opportunités aux jeunes, aux mamans et aux adultes, nous contribuons à la paix et à la prospérité. Nous avons déjà des gens qui ont réservé déjà des stands pour 2019, alors que nous sommes encore en train de célébrer l'étonne de 2018.
Accompagner la jeunesse, c'est le credo qui s'est fixé les foyers culturels de Goma. Non seulement dans les domaines culturels, les rêves de la jeunesse doivent être accompagnés, nous dit Joël Tembo, directeur exécutif des centres d'apprentissage dans l'entrepreneuriat de jeunes à Goma. Cette année, 4 projets dans l'agro-pastoral sont soutenus avec chacun une somme de plus de $2 500 pour soit le lancement ou l'accompagnement.
Cette année, nous allons créer 100 entrepreneurs parce que nous formons 25 par trimestre. Dans 10 ans, nous voyons un réseau d'une centaine de startups viables, des centaines de gammes de produits innovants sur les marchés.
Pendant les 3 jours, différentes organisations étatiques et non étatiques profitent de l'espace pour venir exposer leurs produits et services. Aujourd'hui, difficile de savoir avec exactitude ce que la ville de Goma gagne, mais tout le monde y gagne son compte. Les hôtels sont payés, les chauffeurs taxis, les visas sont payés par des centaines d'étrangers venus pour chanter et danser la paix au Nord Kivu. Charlie Kasereka depuis les foyers culturels de Goma pour VOA Afrique.
Au Togo, fin hier, à Lomé de la 2e édition du salon dit du mariage et des noces, pendant 3 jours, des expositions, des articles de mariage, des conférences, débats sur la séduction, entre autres, ont marqué l'événement. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
De l'acte 2 du salon du mariage et des noces s'avance sur le tapis rouge. Dans sa robe blanche, la mariée, au bras de son homme en costume gris, ce couple de circonstances donne envie à tout célibataire de dire oui. Ce salon n'est pas destiné qu'aux futurs mariés, souligne Sandrine Atamin, directrice du salon du mariage et des noces.
Pour une personne qui n'est pas encore mariée, on ne lui dit pas de venir sur le salon et se marier directement, non. Elle peut peut-être déjà venir voir. Elle peut s'inspirer et trouver elle-même des idées pour son mariage, même si ce n'est pas maintenant, c'est peut-être dans 5-10 ans. Maintenant, pour quelqu'un qui est déjà marié, l'intérêt de venir, on se dit généralement qu'une fois marié, tout est acquis, on n'a plus rien à apprendre. Mais c'est faux. Il y a justement ces professionnels-là qui sont venus nous dire non, ça ne s'arrête pas là. Il y a une vie après le mariage. Il faut justement pimenter cette vie de couple.
Du 9 au 11 février à Lomé, le salon du mariage et des noces a permis de rassembler des professionnels de la chaîne de l'un des événements les plus importants de la vie d'un individu, le mariage. Au total, 3 conférences débats ont meublé cette 2e édition de ce salon. L'une de ces conférences a eu pour thème « Comment réussir un beau et heureux mariage ». À l'issue de cette conférence, Alessandre de Souza, marié de son état, a retenu quelques astuces pour vivre dans le bonheur avec son âme sœur.
Le bonheur, c'est une recherche, c'est un objectif, c'est quelque chose à atteindre. Il faut toujours vouloir, il faut toujours s'améliorer. Et donc, c'est d'essayer toujours de vivre dans cet amour-là, toujours se rappeler les premiers jours, faire des choses ensemble. Et donc, quand on prépare bien son mariage et qu'on vit son mariage dans l'amour, on ne peut qu'être heureux.
Au Togo, 3 types de mariages sont courants. Il s'agit du mariage religieux, du mariage civil et du mariage coutumier communément désigné la dot. Contrairement à une croyance populaire, la dot ne conditionne pas le mariage à l'état civil, nous dit Valentin Adjawinou, président de la délégation spéciale du 1er arrondissement de la ville de Lomé.
La dot est considérée comme
un honneur que l'homme fait à la famille de sa partenaire. Donc la dot, c'est symbolique. Et c'est pourquoi le législateur l'a fixé à 10 000 francs CFA. Le fait de ne pas donner la dot ne constitue pas un frein au processus de mariage. D'ailleurs, les deux qui contentent le mariage étant des majeurs, même si les parents refusent la dot ou acceptent la dot, nous, nous servons le mariage.
En un an, le taux de mariage célébré dans la commune de Lomé a connu une hausse de 25%. De 2200 en 2016, le nombre de mariages célébrés est passé à 2750 en 2017. Ce chiffre n'était que de 1049 en 2011, toujours dans la commune de Lomé. Kailosson, depuis la capitale togolaise, pour VOA Afrique.
Au Mali, les cas de viol collectif deviennent fréquents et les jeunes garçons responsables de tels crimes contre les filles en publient les vidéos sur les réseaux sociaux. En une semaine, quatre groupes de ces violeurs ont été arrêtés par la police. Les organisations de défense des droits fondamentaux et celles de défense des femmes demandent justice et des sanctions exemplaires contre ces criminels. Les détails avec notre correspondant Kassim Traoré.
Les réseaux sociaux sont devenus de véritables outils de communication, des moyens de dénonciation et de lutte pour les jeunes. Au Mali, certains jeunes commencent à les utiliser autrement. C'est le cas d'une vidéo de viol collectif sur une jeune fille qui a révolté le collectif Les Amazones que dirige Djakite Khadija Fofana.
Une vidéo horrible et cynique qui circulait sur WhatsApp. Dans la dite vidéo, on voit clairement des individus, plusieurs jeunes, en train de violer collectivement une jeune fille sans défense. Commettre de tels crimes et se faire filmer et poster ça sur les réseaux sociaux est tout simplement inadmissible pour nous.
Grâce à la police judiciaire, les cinq violeurs de Sotiba ont été arrêtés. Amidou Kone, défenseur des droits de l'homme.
Ceux qui ont été arrêtés, si on ne les fera pas dur, et pour servir une leçon à ceux qui quand même vont prétendre à faire ces mêmes actes. Je pense qu'il faut avoir une mesure corrective par rapport à ces situations. On ne fait plus confiance à la justice aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont été arrêtés, du 2 ou 3 jours, on va les voir dehors. Bon, vraiment, c'est pas du sérieux.
Après le cas de Sotiba, on note un autre viol collectif au quartier Hippodrome de Bamako, de 3 hommes sur une fille. Le samedi 10 février 2018, il y a eu un autre cas de viol collectif dont une jeune fille de 15 ans a été victime à Daoudabou. 3 des 4 violeurs ont été appréhendés par le commissariat de police du 4e arrondissement. Nana Ouangara.
Moi, je suis indignée, terrorisée et révoltée parce que je ne pensais pas dans un pays comme le Mali où on peut voir un être humain comme lui et abuser d'elle sans le consentement de la personne. Ces gens qui violent les gens, ils méritent la peine de mort. Il faut que le gouvernement et puis l'autorité malienne donnent l'exemple aux violeurs. On dirait que c'est devenu un truc à la mode parce que ça commence à la pédophilie, le viol, commence à se sentir partout. On ne se sent plus en sécurité, nous étant des femmes et mères des filles aussi.
En plus des viols, il y a eu la mise à la disposition de la justice d'un homme de 75 ans pour pédophilie sur une fille de 3 ans et l'interpellation de 6 personnes, dont une fille de 16 ans, pour avoir enregistré et diffusé une vidéo à caractère pornographique avec chantage. Kourechi Cissé, journaliste.
Ces viols-là seront vraiment poursuivis par le sérieux puisqu'il n'y aura pas de médiation pénale au niveau policier. D'habitude, nous souffrons de ça. Au niveau aussi des juges d'instruction qui en ce rubrique en a été informé, nous avons des organisations aujourd'hui qui se sont constituées comme partie civile, qui sont dans le dossier aujourd'hui. Ces organisations ont été informées à cause de la publication qui s'est passée sur les réseaux sociaux. Les viols, ils sont punis de 5 à 20 ans d'emprisonnement. C'est un acte criminel.
Ces cas de viol, de pédophilie ou encore de diffusion de vidéos pornographiques doivent interpeller les parents et les autorités maliennes. Amidou Kone.
Que ce soit l'État ou les familles, personne ne s'assume par rapport à l'éducation des enfants. Que les viols collectifs se fait de façon peut-être clandestine. Tout la police quand même doit quand même jouer son rôle en faisant des patrouilles, en ayant peut-être des détectives ou quand même des services secrets pour suivre ces genres de fléaux. Si dans la famille il n'y a pas d'éducation, on laisse faire les enfants ce qu'ils veulent.
Tous les jeunes filles et garçons arrêtés seront remis à la justice malienne. Les victimes sont prises en charge par les organisations de défense des droits de l'homme. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le monde. monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console d'Earl Smith, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.